week-end, dans le cadre de ce week-end, c'est donc LL Ministry France qui se déplace. Et on a donc le privilège d'avoir David Cross qui était avec nous ce week-end, qui est le co-directeur de LL Ministry. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est dans la région de Lille, avec le démarrage de la première école modulaire sur Roubaix. Voilà, et je crois que le Seigneur a béni. Et puis, je crois que ça fait partie d'une stratégie du Seigneur pour cette région, qui est une région qui a du prix aux yeux de Dieu. Je crois que Dieu a un plan pour le nord de la France. La première fois où on est venu ici, c'était en 2008. On était au Château Blanc. Alors, on avait fait un module. On était venu avec une équipe aussi d'intercesseurs. Il y avait... Les gens avaient reçu que Dieu avait un plan vraiment pour cette région. Ils avaient vu que cette région avait aussi souffert pendant les dernières guerres. Il y avait beaucoup de sang qui avait coulé. Les intercesseurs étaient brassés, et nous aussi. Voilà. Donc c'était il y a déjà 8 ans. Et nous revoilà. Donc voilà, ce matin, je vais vous partager des choses simples que vous connaissez concernant le pardon, mais je m'aperçois en tant que pasteur que finalement, on croit connaître les choses, mais que dans les faits, dans la pratique, au quotidien, on les vit pas. Hein? L'évangile, c'est une puissance, normalement, qui transforme. Et on s'aperçoit que, finalement, la transformation dans le corps de Christ, elle se fait pas si rapidement que ça. Et en introduction, avant d'entrer vivement dans le sujet, donc j'ai combien? 40 minutes? Donne-moi une heure. Je vois, c'est 11h20, midi, c'est bon? Très bien. Parfait. 2h25, oh, je peux. Hein. Je peux tenir jusqu'à 2h25, mais après, je vous dis pas que ça sera spirituel. Hein. Voilà, donc, je veux dire, la parole de Dieu, elle nous parle de plusieurs choses. En introduction, je voudrais dire qu'il y a la destination que Dieu a prévue pour l'humanité, et puis il y a la destinée. C'est deux choses qui sont différentes. Le jour où vous avez rencontré Jésus-Christ, c'était votre choix. Il vous a pas forcé. Hein. Vous avez changé de destination. Vous êtes descendu d'un train qui avait une direction, une destination qui était, excusez-moi, peut-être qu'on n'ose plus le dire aujourd'hui, mais qui était l'enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, on ne sait plus le dire aujourd'hui, mais la destination finale, c'est l'enfer. Hein? On croit qu'ils n'iront pas, on fait tout pour qu'ils n'y aillent pas, mais la destination finale, ça reste l'enfer. Hein? Et puis, on a changé de destination, on est monté dans un train, destination ciel. Amen. C'est bon, on part au ciel. Donc tout est fini. Ça, c'est le message de l'évangéliste. Ok, c'est formidable. Je suis sauvé, je vais au ciel. Bon, ben c'est parfait, on arrête là. Donc, et qu'est-ce qui se passe entre? Je sais pas. Mais on va au ciel. Ah, si on va au ciel, autant y aller tout de suite. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On sera mieux là-haut. Voilà. Maintenant, si je pose la question ici, dans cette salle... si je vous donne, je suis pas Dieu, hein, mais tant que je sois Dieu, je dis, bon, je te donne la... Allez, est-ce que tu veux venir au ciel dans une semaine? Qui veut? Oui, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, disons dans 3 heures. Je pense que la plupart d'entre nous, on va dire, Seigneur, je suis pas pressé. Vous êtes d'accord? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas vous. Maintenant, Seigneur? Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais si le Seigneur vous prend maintenant, comment il va pouvoir vous utiliser pour en amener d'autres à lui? Ah oui. Ça c'est l'équilibre de la parole de Dieu. D'accord? Donc la destination, c'est le ciel. Mais la destinée, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ce train avant d'arriver à destination. D'accord? Dieu a préparé en avance des œuvres pour nous, et chacun et chacune d'entre nous, nous avons des œuvres, un package, excusez-moi, un package, je cherche un package, que Dieu a préparé pour nous. Et le package, il est individuel. Tu ne peux pas prendre le package de l'autre. D'accord ? Et je voudrais dire en introduction, parce que ça introduit un peu le ministère d'Hélène, c'est que ce package, le diable va essayer de te le voler. Cette destinée, le diable va tout faire pour que tu ne rentres pas dedans. Ok ? Parce que si tu rentres dans ta destinée, tu accomplis les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et tu deviens dangereux pour l'ennemi. Il ne peut pas te faire changer de destination. Tu ne peux pas perdre ton salut, sauf si tu choisis. On est bien d'accord, tu peux choisir un jour de dire « je ne veux plus de Jésus », ça c'est ton libre choix. Mais tu es dans le train. Si tu choisis, à un moment donné, il va falloir que tu descendes du train. C'est ta volonté, le diable ne peut pas te prendre dans le train et te sortir du train. Par contre, dans le train, il peut te bloquer, te coincer à côté des sanitaires. Bah, tu es là. Hey, mon gars, tu ne bouges pas là. Excusez-moi, hein. Tu ne bouges pas. Et si tu ne bouges pas, tu ne peux pas partager l'évangile autour de toi. Tu ne peux pas rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Et quelque part, tu vas arriver à destination, mais tu auras langui la destination. Tu vois ce que je veux dire ? Et combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la tristesse, sont pas libres, sont bloqués, soupirent après le retour de Jésus, et merci Seigneur, moi aussi. Mais Dieu a un plan pour nous. Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dieu a un plan pour son Église. Dieu a un plan pour la France. Dieu a une destinée pour la France. Ah, c'est dur, peut-être, mais Dieu a une destinée pour la France. Amen. Et si vous voulez, tout le message, finalement, de la restauration, moi j'ai fait beaucoup d'évangélisation, Dieu m'a pris, il m'a dit, maintenant tu vas. Vous savez, quand on a été envoyé pasteur par Pierre Truchel, que certains connaissent ici, en 98, avant j'étais ancien mais au chandelier avec Pierre Truchel, et on était aussi évangéliste. Moi j'allais dans la rue, je prenais la guitare, je joue moins bien que vous, frère. Hein. Franchement, j'ai bien aimé votre toucher, mais bon, moi, on m'a mis dans la rue, excusez-moi, hein, j'évangélisais. Et puis un jour, j'ai eu le malheur de prendre une guitare, parce que quand j'étais non-chrétien, j'avais une guitare, et j'ai gratté deux accords. Les gars, ils ont vu que je grattais deux accords, ils ont dit, toi, pff, dans la rue, et prends ta guitare et tu vas chanter pour Jésus. Et j'ai commencé comme ça, et on chantait pour Jésus, et puis voilà, voilà. Hein, et donc, je sais ça. Donc, mais quand on m'a envoyé, donc, pasteur, Pierre Truchel, il y a une parole qui a été donnée, qui nous a été donnée, mon épouse et moi-même. Voilà, vous avez été, jusqu'à présent, vous pêchiez à la ligne. Bon, ça c'est l'évangélisation, hein. Mais il faut, pas s'arrêter. Hein. Mais maintenant le Seigneur t'appelle à réparer le filet. Le filet. Ah, tiens, c'est une histoire de pêche. Donc tu vas apprendre à réparer le filet. Mais pour apprendre à réparer le filet, je vais te donner des outils. Ah, je bouge trop, non ? Ça va ? Non. C'est bon. Excusez-moi, je suis un peu. Donc je vais te donner des outils pour réparer le filet. Et puis tu vas former des gens à réparer le filet. Bon. Et je ne savais pas ce que c'était ce filet. Et le Seigneur m'a montré, donc 5 ans plus tard, donc à l'époque je travaillais, puis à un moment j'ai arrêté mon travail sur une direction de Dieu, et j'étais plein temps pour l'Église. Et là, le Seigneur m'a. L'entreprise qui me licenciait volontairement, c'était mon choix, enfin bon, m'a offert une formation. Il dit, on vous paye. Alors, j'ai dit, mais écoutez, moi je suis pasteur. Elle m'a regardé, la directrice du personnel, mais quoi, les pasteurs, ça se forme pas ? Ben si, ben, cherchez une formation, on vous la paye, quoi. Enfin bon, sympa. Bon, donc j'ai cherché une formation, j'ai pas trouvé en Suisse, je suis francophone, j'ai cherché la francophonie, j'ai rien trouvé. Et finalement, je suis retrouvé, pour aller très vite, à Hélène Ministry en Angleterre. Alors avec un anglais. Ça a été un petit peu... Bon, ça, je vous passe le détail. Pourquoi je dis ça ? C'est que Dieu m'a donné les outils, là-bas. Je suis parti 9 semaines. Et quand je suis revenu, j'ai dit, mais tout ce que Dieu m'a... Bon, j'ai quand même pasteur, ça fait... J'avais 25 ans de conversion. Je dis, mais... Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Je dis, mais c'est vrai, le peuple de Dieu, tu m'as dit que j'allais réparer le filet. Puis Seigneur, après, il a commencé à me parler précisément par rapport à cette vision. Il m'a dit, voilà... Pierre, je l'ai appelé, je lui ai dit, jette ton filet. La première fois qu'il a jeté le filet, il a tiré le filet. Et tout le monde crie Alléluia parce que le filet se déchire. Moi, évangéliste, premier, tu vois. Comprenez ? Et le Seigneur me dit, non, pas Alléluia. Ah, parce que si le filet se déchire, les poissons retournent à la mer. Ah oui, je n'avais pas vu ça, Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Et puis il me dit, maintenant tu vas dans Jean 21. L'apôtre Pierre, toujours le même, vous savez, Pierre, on pourrait faire un message là-dessus. Et puis Pierre, il arrive, il a rejeté Jésus 3 fois. C'était la cata, quoi, la catastrophe dans sa vie. Il dit, excusez-moi l'expression, je suis fini dans le ministère. Donc je vais retourner à ce que je faisais avant. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il pêchait. Donc il pêche toute la nuit, il prend rien. Et Jésus, sur le bord de la mer, sur le bord de la plage, est là. Et Jésus lui dit, il sait pas que c'est Jésus. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Il jette le filet et il tire 153 grands poissons. Et là, le Saint-Esprit m'arrête sur ce verset et le filet ne se rompit pas. Bah! Et le Seigneur me dit, le filet, c'est l'Église. Si l'Église n'est pas guérie, elle ne peut pas engranger la moisson que je veux envoyer, la moisson des derniers temps. Je te montre ici prophétiquement que je vais guérir. Et c'est vrai qu'après, vous regardez dans le texte, Jésus dit 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Jésus dit, et Pierre répond, tu sais, Seigneur, je t'aime. 3 fois, pourquoi? Parce que 3 fois, il a renié. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc là, prophétiquement, le Seigneur me montre qu'il veut guérir l'Église, réparer le filet, parce que la moisson doit venir dans une Église qui est réparée, parce que les gens qui vont venir du monde ont besoin de restauration. Voilà, j'ai compris qu'est-ce que c'était la vision. Donc j'avais les outils, les enseignements d'Hélel. Je formais les gens, ça fait 10 ans qu'Hélel ministrie à Saint-Laurent-du-Pont. On a des équipiers, 3 sont là avec nous ce matin. Il y en aura d'autres qui seront sur l'île, on est en train d'en former. Pourquoi? Parce que l'Église, aujourd'hui, a besoin d'être guérie pour rentrer dans sa destinée. C'est pas une finalité, la guérison. Je termine par ça en introduction et je tiendrai mon temps. Je termine en disant que quand Jésus a choisi les apôtres, les 2 premiers apôtres, ils jetaient le filet. Les 2 autres qui choisissent, Jean et Jacques, ils réparaient le filet. Le Seigneur me dit, stratégie. Je prends 50% qui évangélisent et 50% qui s'occupent des gens brisés. Parce que ceux qui vont venir dans l'Église seront brisés. Et c'est ça, Dieu est un Dieu d'équilibre dans l'Église. S'il n'y a pas un ministère pastoral de restauration de ceux qui vont venir... Moi, je me suis fait baptiser en 1987. J'étais converti, je vous passe les détails. 30 baptêmes en 3 mois. 120 baptêmes dans l'année à Grenoble. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, combien sont dans l'Église? Et je critique pas. Mais moi, j'étais malade. Parce que j'ai vu des gens... J'ouvre une cellule à Grenoble. En 6 mois, 12 personnes baptisées. C'est un petit, tout petit réveil. Mais après, quand vous les voyez, ils arrivent à l'Église et ils progressent pas. Ils sont pas transformés. Et puis, d'un seul coup, ils lâchent l'Église. Alors, on va dire, division dans l'Église. Mais oui, alors on va dans l'autre, elle est meilleure. On va dans l'autre Église. Oh, elle est meilleure. Paf, division, mince. Alors, encore blessé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si, quand vous regardez l'état du corps de Christ en France, soyons honnêtes, soyons vrais. Le filet est déchiré. Le filet est déchiré. Et vous savez, on peut tomber dans le piège, dire, oh, mais c'est, s'ils sont partis de l'autre Église, c'est qu'on est mieux, nous. Non, mais vous le pensez pas ici. Moi non plus, mais peut-être que certains pourraient le penser. Mais non, le filet est déchiré, frères et sœurs. Il est temps de réparer le filet. Il est temps de dire, oui Seigneur, on veut que toutes les âmes soient sauvées, car c'est ta volonté. Hein, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce que l'Église a besoin d'être réparée. Amen. Alors voilà, c'est l'introduction. Et ce matin, je voudrais simplement, très rapidement, vous donner un premier médicament pour la réparation du corps de Christ. Simple, vous savez, il y a des médicaments de base. Doliprane. On a une médecin avec nous, donc je vais lui laisser le micro. Voilà, donc ce matin, je vais vous parler du pardon. Vous allez me dire, ouais, on connaît. C'est vrai. Mais je voudrais peut-être donner un éclairage là-dessus, voilà, une approche des outils qu'Hélel nous a donnés, et on va parler donc du pardon ce matin. Alors le pardon, on peut en parler, vous savez, même les psychologues en parlent, ils disent que les gens qui pardonnent plus facilement ont une vie plus facile que ceux qui ne pardonnent pas. Mais moi, je ne vais pas venir sur ce terrain-là parce que je dis tout de suite, LL n'est pas un ministère psychologique. C'est clair, ça n'a rien à voir, rien à voir. Sinon, moi, je ne serais pas dans LL. Moi, je suis un homme de la parole, je suis un ancien darbiste, j'ai été dépoussiéré, j'ai vécu les dons spirituels. Non, non, mais il faut que vous compreniez qui vous avez en face de vous, hein. Non, mais c'est un premier contact, c'est parce que je vous dis qui je suis. Donc moi, j'aurais jamais adhéré à quelque chose de psy. C'est pas mon... Je suis très carré, je suis plutôt scientifique, donc je suis pas dans la psychologie. Mais Jésus est le plus grand des psychologues quand même. Jésus comprend qu'on est esprit, âme et corps. Jésus sait guérir notre esprit, Jésus sait guérir notre âme, Jésus sait guérir notre corps. Alors, la première clé, une clé qui va être indispensable dans votre vie chrétienne pour avancer, c'est le pardon. Pourquoi le pardon est si important? Parce que, premièrement, la nature, le caractère, la nature divine, la nature de Dieu, c'est le pardon. Dans Exode 2, 6, il est dit qu'il fait miséricorde, Dieu, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui aiment et qui gardent ses commandements. 1000 générations, on n'y est pas arrivé, frères et sœurs. Et Jésus sera revenu avant la fin des 1000 générations. Hein, si vous faites un peu d'eschatologie. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes, c'est pas, hein. Vous savez, des fois, on est un peu légaliste. On dit, ouais, il y a des péchés, il y a des gros péchés, puis des petits péchés. La Bible parle pas de gros péchés et de petits péchés, hein. La Bible parle du péché. Point. Le brigand sur la croix, excusez-moi. Le brigand sur la croix, qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Celui qui s'est repenti. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a accompli de sa destinée? Pas grand-chose. 30 secondes avant d'expirer. Hein? Mais il est avec le Seigneur pour l'éternité. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le message de la croix. Alors, le pardon, c'est l'essence même de Dieu. Dieu est un Dieu de pardon, d'amour, de grâce. Il pardonne toutes tes iniquités. Jésus n'a pas seulement parlé du pardon, mais il l'a démontré lui-même à la croix. Juste avant de mourir. Les paroles, bon, c'est pas le message ce matin, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Ben, une des 7 paroles, c'est, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus attend pas qu'il y en ait un seul qui vienne se repentir. Sur la croix, crucifié, avant même qu'il y en ait un seul qui vienne demander pardon, il libère le pardon sur l'humanité pour que l'humanité soit pardonnée. Important de comprendre prophétiquement. Pour que l'humanité soit pardonnée, Jésus libère le pardon. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Et heureusement que Jésus a fait ça. Et heureusement qu'il a fait ça. Le pardon est une clé fondamentale dans le processus de guérison. Fondamentale. Si vous n'avez pas la clé pour entrer là, vous n'allez pas plus loin. Enfin, il n'y a qu'une pièce, mais bon. Vous savez, vous rentrez dans un labyrinthe, première porte. Si vous n'avez pas la porte d'entrée, on ne peut pas aller à la deuxième, ainsi de suite. C'est pareil. Dans toute situation blessante que tu as pu vivre, ou si tu n'as pas tourné la clé du pardon, tu ne vas pas plus loin. Tu ne vas pas à la délivrance, tu ne vas pas à la guérison, tu ne vas pas à la libération, tu bloques à un moment. Le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est la clé fondamentale. Mais le pardon, il a plusieurs facettes, on va voir. Il y a déjà demandé pardon pour ses péchés. Paul dit aux Romains, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et puis, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon, c'est le mode de vie du royaume de Dieu. Tant que nous n'avons pas pardonné les autres, nous ne pouvons pas recevoir le pardon pour nous-mêmes. Vous savez, le Notre Père, hier j'étais avec un catholique hier. Bon, j'avais en face en relation d'aide, il me dit, on prie, mais moi je prie pas comme vous, alors comment on prie? On fait le Notre Père. J'ai dit, si vous voulez, on fait le Notre Père. Mais bon, on faisait de la relation d'aide, donc on a mis point sur des points précis. Il me dit, bon, ben, je vais vous suivre dans la prière. Donc, il m'a suivi. Non, on n'a pas fait le Notre Père. Mais on aurait pu faire le Notre Père. Le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit dans Notre Père? Qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc., etc. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas n'importe comment. Comme. Ça veut dire, si Dieu me pardonne, comme je vais pardonner aux autres. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ben si. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, continue Jésus, ceux qui nous ont offensés, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Ah, il y a une relation, pour ceux qui ont fait des maths, bijective. Si tu fais ça, tu as ça. Mais si tu fais pas ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu pardonnes pas, tu bloques le pardon dans ta vie. C'est embêtant, parce que pas vivre non pardonné, c'est vivre sous la culpabilité. Or, Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a pardonné pour qu'on soit pardonné. D'accord? Donc, peut-être pour mieux comprendre, qu'est-ce que le pardon ne veut pas dire? Parce que des fois, on ne sait pas. Alors, pardonner ne veut pas dire que d'une façon ou d'une autre, nous allons oublier ce qui s'est passé. D'accord? Le pardon, c'est pas on met un coup de pinceau sur l'offense. Ça n'a pas existé. Alors, parce que des fois, il y a des erreurs. Hein. Les pasteurs, nous, on fait des erreurs. On dit, ouais, mais tu souffres, mais tu n'as pas pardonné. Si tu avais pardonné, tu ne te rappellerais plus. C'est faux. À Auschwitz, il est marqué pardonne, mais n'oublie pas. Et heureusement qu'à Auschwitz, il est marqué pardonne et n'oublie pas. Parce que l'offense, elle a été là. OK? Et on ne peut pas dire l'offense n'a pas existé. On l'a oublié. C'était rien. Non. Allez dire à quelqu'un qui a été abusé, allez dire à quelqu'un qui a vécu un meurtre, qui a vécu qu'il n'y a pas eu l'offense. Non, c'est pas ça le pardon. Pardonner ne veut pas dire non plus que le mal est minimisé ou que la personne qui a fait l'offense est innocente. Non, c'est pas ça pardonner. Ou pardonner ne veut pas dire non plus que nous inhibons nos colères et nos douleurs. Hier, on a un tout petit peu parlé des émotions. On aura un week-end complet sur les émotions. Mais la colère, c'est une émotion. La Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Elle dit pas, ne te mets pas en colère. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, là? Hein? C'est-à-dire, parce qu'il y a dans les milieux chrétiens, surtout pas se mettre en colère, pas de vague. Mais alors, on te marche sur les pieds, t'es la vraie serpillière, et puis, voilà. Alors, vous êtes dans cette doctrine, et puis vous tenez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, et le verre est rempli de colère. Puis un jour, parce que vous êtes fatigué dans votre esprit, vous changez d'église, parce qu'entre-temps, vous avez changé 3-4 fois d'église, parce que, bon, comment, vous ne pouvez pas vous mettre en colère, une fois vous êtes mis en colère, on vous a mis, bon, voilà, bon, vous m'avez compris. Et puis, à un moment, vous arrivez à un certain âge, vous dites, maintenant, et puis il y a quelqu'un qui vous marche sur le pied, sur le doigt de pied, pareil, puis alors là, la colère, elle sort tout, le verre complet, alors, celui avec le pauvre qui vous a mis, qui vous a marché sous votre pied, lui, il comprend pas, il tombe du grenier à la cave, il sait pas ce qui lui arrive. Et toute cette colère, vous l'avez jamais exprimée. Ok? Donc, c'est pas ça le pardon. C'est pas dire, j'ai pas de colère, non, non, moi je suis au-dessus de tout le monde, j'ai pas de colère. Moi. On a le droit d'être injuste envers moi. Non, c'est pas ça le pardon. Pardonner ne veut pas dire non plus que nous évitons toute confrontation. Matthieu 18, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est normal ça, on n'ose pas le faire. Alors, ça c'est une parenthèse de pasteur. Ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Va pas voir le pasteur, ou le frère ou la sœur. Oh, tu sais ce qu'il m'a fait. Non, tu vas voir la personne qui t'a fait le problème. Il y a trop de relations triangulaires, excusez-moi, qui créent des problèmes dans les relations. Non, c'est lui qui a péché contre toi. Tu vas le voir. Si maintenant, il veut pas régler son problème, tu y retournes avec un témoin. C'est différent, mais tu as fait la première étape. Or, on fait rarement la première étape. Le nombre de fois les gens sont venus me dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je dis, tu as en discuté avec? Non, ben, comment pas en discuter avec lui? Je viendrai après, j'interviendrai après en tant que témoin. Et en troisième position, s'il n'obéit pas devant le témoin, dis-le à l'église. Troisième. Donc c'est pas ça. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une confrontation. Il faut être dans la vérité. Pardonner ne veut pas dire que ceux qui nous ont offensés ont des obligations ou une dette envers nous et qu'au travers de cela, ils nous doivent quelque chose. Non. Non, non, non. Ils doivent régler leurs problèmes avec Dieu. Mais vous avez été offensés. Et surtout, n'attendez pas que la personne qui vous offense vienne vous demander pardon, parce que des fois, vous pourrez attendre longtemps. Mais c'est vrai. Puis des fois, elle est morte, la personne. Ah ! Et vous, vous attendez qu'elle vienne vous demander pardon. Vous allez attendre et vous allez rater votre destinée. Vous êtes coincé dans le wagon à côté des sanitaires. Dans votre non-pardon. Ah non, mais attendez. J'en ai fait des trains. Des TGV, des pas TGV. Et il y en a beaucoup qui sont coincés à côté des sanitaires ficelés. Vous allez voir. Donc, pardonner ne veut pas dire non plus que nous devons trouver quelqu'un à blâmer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si, pardonner? Pardonner, c'est dire avoir la volonté de reconnaître ce qu'il y a réellement dans mon cœur quand j'ai été offensé. J'ai de la colère. C'est une offense. On se base sur la vérité. La vérité, c'est la parole. Le péché reste le péché. Il m'a blessé. J'ai été offensé. Ou j'ai offensé quelqu'un. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que nous devons séparer le pécheur du péché. Ok ? Le pécheur, Dieu l'aime. Jésus l'a dit à la femme adultère, « Va, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il n'a pas dit « Va et puis fais ce que tu veux. » Non, « Va et ne pêche plus. » Mais il a eu compassion pour la femme adultère. Il a dit, « Les pharisiens étaient là, vous connaissez l'histoire. Qui c'est qui n'a pas de péché ?» Eh bien, qui jette la pierre le premier ? Bah, tous les religieux, là, coincés. Personne ne pouvait jeter la pierre. Parce que tout le monde a péché. Ok ? Donc, le diable va te mettre coller l'image du péché sur la personne. Mais Dieu aime la personne. Jésus est mort pour cette personne à la croix. Jésus a payé le prix pour cette personne à la croix. Donc si tu confonds les deux choses, tu n'auras pas la compassion pour la personne. Ça peut se comprendre parce que tu es blessé. Mais cette personne sache une chose, c'est que Jésus est mort pour elle aussi. Il est mort pour toi, mais il est mort pour elle aussi. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont concernés, mais moi je suis concerné, au quotidien je suis concerné par des problèmes de pardon. Parce qu'on est offensé, on est dans un monde d'offense. Donc séparons bien le pécheur du péché. Et puis pardonner, c'est peut-être le point qui est important de comprendre, c'est choisir la miséricorde mais pas le jugement. Le pardon, c'est un acte de miséricorde, ce n'est pas un acte de justice. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est pas parce que tu pardonnes que tout est juste, tout va se mettre dans la justice. Jacques 2,13 parlait et agissait comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde ? La miséricorde triomphe du jugement. La Bible nous dit très clairement, mais on le vit pas, on le fait pas, que nous n'avons pas à juger. Vous êtes d'accord ? Le seul qui a le droit de juger, c'est Jésus. Mais nous jugeons tous. Alors on sort le verset, l'homme spirituel juge de tout. Spirituellement, il peut voir ce qui se passe, mais il est rempli de compassion, l'homme spirituel, pour la personne pécheur, parce que Jésus est mort pour cette personne. Donc, pardonner, c'est choisir la miséricorde, mais pas le jugement. Pardonner, c'est ne pas attendre de mériter de recevoir le pardon de l'offenseur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Étienne, quand il est lapidé, acte 7, verset 60, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il est en train d'être lapidé. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, il était rempli de Saint-Esprit, Étienne. Hein. Il est lapidé sous le regard de Saul de Tarse. La lapidation, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est presque aussi horrible que la décapitation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décapitation. C'est une parenthèse. Hein. Vous savez ce que les croisés ont fait à Jérusalem et aux musulmans ? C'était aussi pire que la décapitation. Ça, c'est une réflexion. Donc, Étienne, il est lapidé. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Il pardonne ceux qui sont en train de lapider, instantanément. Il les libère déjà par son pardon. On va voir le fait de pardonner, ce que ça fait spirituellement dans le monde spirituel. Parce que c'est ça qui est important ce matin. Je voudrais que vous compreniez l'impact spirituel dans le monde spirituel du pardon. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez être éprouvé par des situations où vous devrez pardonner, mais vous allez comprendre que spirituellement, ça vous libère. Alors, donc, pardonner veut dire qu'il faut commencer à devenir un agent du pardon et cesser d'être une victime. Ok. Ouais, la vie n'est pas facile. Alors, souvent, il y a des gens qui sont victimes, hein. Et surtout les gens qui ont été dans le rejet, vous savez, il y a comme une étiquette, rejet, alors ils sont toujours rejetés tant qu'ils n'ont pas été guéris du rejet. Donc ils viennent avec leur étiquette, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, les gens qui les aiment le plus, c'est ceux qui vont les rejeter parce qu'ils ont une étiquette sur le front. Tu es rejeté. Et tant que cette étiquette n'est pas enlevée, ça c'est le but de la relation d'aide, hein, de réparer le filet, c'est ça. Hein. Si la personne elle a une étiquette rejet et qu'elle le traîne, cette étiquette rejet depuis sa naissance, tant qu'on n'aura pas enlevé l'étiquette rejet, elle aura une probabilité d'être rejetée qui sera voisine de 100. Donc, elle va se convertir, elle va venir dans une église. Ah, je suis aimé. Eh bien, tôt ou tard, je vous dis, parce que c'est du vécu, tôt ou tard, le pasteur qui aime cette personne, par une inadvertance, va la rejeter involontairement. Parce que ici, il y a marqué, tu es rejeté. Et si la personne, elle comprend ça, qu'il faut qu'elle traite cette étiquette, elle changera plus d'église parce qu'elle comprendra que le Seigneur la veut à un endroit. Elle demandera au Seigneur où est-ce que tu me veux. Et quand elle sera à l'endroit où le Seigneur veut, elle sera bien parce qu'elle expérimentera la parole de Dieu et elle fera ce que Dieu lui demande de faire là où Dieu l'a placée. Mais parce qu'il y a plein de personnes qui ont cette étiquette rejetée, et les racines sont nombreuses, et ben ils comprennent pas ça. Alors ils disent, on m'a rejeté dans telle église, je vais ailleurs. Et puis ils vont ailleurs, ils se font rejeter. Puis au bout d'un moment, ils ont perdu du temps. C'est encore quelqu'un qui est coincé dans le train, qui est ficelé à côté. Alors celui-ci, il est vers le local à bagages, attaché. D'accord ? Bon, je continue mon histoire. Pardonner veut dire remettre à Dieu nos droits de vengeance. C'est lui. Paul dit aux Romains 12, 17, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, c'est pas notre problème. Nous sommes tous des propres justes, mais c'est pas notre problème. Alors, qui devons-nous pardonner? Alors d'abord, ça marche, oui. Voilà. Donc, je demande pardon pour mon péché, si j'ai péché. Ça, c'est 1 Jean 1,9. Ok. Je demande pardon pour mon péché, et je sais que je suis pardonné. Le brigand sur la croix, 30 secondes après, il était sauvé. Il a demandé pardon, il était sauvé. D'accord ? Bon, ça, on sait. En général, en France, on sait. C'est pas là-dessus que Dieu m'a plus parlé. Bon. Ensuite, pour le péché, je reconnais mon péché. J'ai du remords. J'ai de la repentance qui n'est pas le remords. Hein, une repentance, c'est plus que le remords. C'est ne pas être seulement désolé, mais il faut s'en détourner. Il y a un changement, une conversion, on change de direction. Et puis il faut être réaliste, parce que quelque part, le péché ayant des conséquences, eh ben, il y aura un temps, il faudra vivre les conséquences de notre péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pardonné, mais il y a les conséquences. Hein? S'il y a un bébé, il est là. Enfin, je veux dire, si ce n'était pas une relation sexuelle normale, prévue et dans le cadre du plan de Dieu, ben, il y a un bébé, on ne va pas l'avorter parce qu'il y a eu... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, il va falloir l'éduquer, il va falloir le faire grandir, il va falloir lui apporter l'amour et tout. Ça, c'est les conséquences, c'est une bonne conséquence. Mais ce bébé, il aura peut-être besoin, lui, d'être guéri plus tard parce qu'il est né hors cadre du mariage. Il y a une forme de rejet, hein, d'enfant illégitime. Vous regardez dans Deutéronome 23. Et il va vivre avec ce poids sur ses épaules et à un moment donné, Jésus le guérira. Mais ça existe, ça aussi. Et puis, il y a un temps de restauration. Ça, c'est normal. C'est bon péché. Deuxièmement, je pardonne ceux qui m'ont offensé. On l'a dit, Matthieu 6. Ok, bon, Seigneur, je pardonne. Alors, pardonner, c'est pas dire « je n'en veux pas ». Écoutez bien ça. Pardonner, c'est pas dire « je n'en veux pas ». Je vous donne l'exemple d'une sœur qui est venue dans un de nos séminaires. Et cette sœur... Le jour, et j'ai le droit de donner son témoignage parce qu'elle m'a donné l'autorisation, le jour du mariage de sa fille, elle devait être témoin du mariage. Et la fille, entre-temps, dans l'organisation, elle a changé son plan, sans en parler à sa mère, elle a demandé à une amie d'être sa témoin. Mais le jour du mariage, quand le maire a dit les témoins, levez-vous, la mère qui s'est levée a vu que c'était pas elle la témoin, que c'était la copine. Donc elle a eu un choc émotionnel. Hein, vous êtes des mamans, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, un sacré choc émotionnel. Ça a été le jour le pire de sa vie. Bon, mais c'est sa fille, c'est le mariage de sa fille, elle a suivi le cortège. Ça a été très dur pour elle. Dans la semaine, elle a eu du mal à s'en mettre. Puis elle s'est dit, c'est ma fille, donc elle s'est forcée à aller voir sa fille. Elle a dit, bon, ben, je passe au-dessus, j'en veux pas. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, ok, c'est ma fille quand même. Donc elle s'est raisonnée, elle a tout fait ce qu'il fallait. Et puis les relations ont repris. Mais c'était là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis elle a commencé à avoir un dérèglement hormonal. Bon, elle va voir le médecin donne le traitement. Ça marche pas. 6 mois après, ça marche toujours pas. 1 an après, problème à la thyroïde. Problème à la thyroïde. Va voir le médecin donne un traitement, il fait des examens, tout ça. Bah, ça marche pas. 6 mois après, donc 18 mois après, le médecin dit, il faut qu'on regarde ça de plus près. Il regarde, il fait un scanner, tumeur au cerveau. Elle arrive à un séminaire chez nous. On enseigne ça, exactement ce que je vous enseigne. Le Seigneur lui dit, tu n'as pas pardonné à ta fille. Elle se dit, mais... Quoi, tu me dis, j'ai pas pardonné à ma fille, on a des relations avec ma fille. Ouais, tu as dit, je suis au-dessus de tout ça. Pardonne. Elle a pardonné, elle a senti la main de Dieu qui est passée, je vais direct au but, le mardi d'après, elle devait aller se faire opérer, le médecin lui a demandé un autre scanner, il n'y avait plus de tumeur, elle était guérie. Mais elle avait dit, je suis au-dessus de tout ça. Et combien de fois nous disons, nous en voulons pas? Mais si nous n'en voulons pas, nous nous plaçons plus haut que Dieu qui a dit tu dois pardonner. C'est ça que je voudrais que vous compreniez ce matin. C'est-à-dire, si tu dis à la personne tu n'en veux pas, ça veut dire que l'offense, toi, tu considères que cette offense, tu peux l'accepter pour toi, mais Dieu dit non, cette offense, elle ne passe pas, c'est un péché. Et tu dois le pardonner. Et si tu ne le pardonnes pas, ça veut dire que tu dis ma justice à moi, elle est supérieure à celle de Dieu qui dit, Dieu dit il faut pardonner. Oui ou pas oui? Donc quand je dis j'en veux pas, à quelque part c'est ma propre justice que je mets en avant. Et pas la justice de Dieu. J'en veux pas, je suis au-dessus moi. Alors quand c'est juste que je t'ai mis le pied sur le doigt de pied, ça va. Mais quand c'est des abus, c'est des choses profondes. Donc il faut comprendre que là, nous devons pardonner. Après, je vais très vite. Bon alors je passe les versets, ils y sont. Ah, je pourrais vous les laisser, mais bon, pardonne-nous, on les a dit, hein, Matthieu 6, 12. Après, soi-même, pardonner soi-même. Ah, vous savez, combien de personnes j'ai vues, et ça c'est subtil. Tu as demandé pardon au Seigneur pour ce que tu as fait. Tu as fait une grosse bêtise, tu as demandé pardon. Le Seigneur te dit quoi? Qu'il te pardonne. Et toi, tu continues à vivre sous la culpabilité. Moi, j'ai vu un jeune, une fois, il est venu me voir, il me dit, je vais te confesser la 15e fois le péché que j'ai fait. Bon, mais je n'arrive pas à m'en débloquer de ce truc. Et puis, il confesse. Je dis, mais tu l'as déjà confessé à Jésus? Oui, ben Jésus, il a entendu, il n'est pas sourd, quoi. Non, mais je veux dire... Et je dis, mais est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Ah ben non, ça non. Ah non, non, je m'en veux toujours de ça. Alors, je dis, en Matthieu 6, je dis, ça veut dire que si Dieu t'a pardonné, que toi, tu ne te pardonnes pas, t'es plus grand que Dieu qui t'a pardonné. Ah non, non, c'est pas possible. J'ai discuté pendant une demi-heure avec ce jeune. J'ai dit, mais si, bon, mais écoute, à la fin, de toute façon, c'est ton libre choix. Donc, j'ai dit, moi, je suis juste là pour t'enseigner la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu, elle dit ça. Je ne vais pas lui faire dire autre chose. Tu as compris? Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, c'est pas grave. C'est ton choix. Et il me regarde au bout d'une demi-heure. Hein, c'était coriace. Hein. Puis au bout du moment, il dit, bon, mais je veux bien essayer. Alors... Et bien, je lui dis, voilà, ben, tu dis, je prends la décision, ce péché que j'ai déjà demandé pardon à Dieu plusieurs fois, je me le pardonne. Parce que Dieu m'a pardonné. Il fait ça. Il est visité par l'amour et le pardon de Dieu. Il dit, je suis en train d'être visité par l'Esprit. Mais j'ai dit, oui, tu viens simplement d'appliquer la parole de Dieu. Il est reparti, tu n'es plus le même. Combien de personnes ont des situations qui ne se sont pas pardonnées? Le Seigneur veut te guérir de ça. Et puis la dernière chose, Dieu. Alors, Dieu n'a pas besoin d'être pardonné. D'accord? Mais dans toutes les circonstances difficiles que nous avons vécues, parfois, parce qu'on avait des interrogations, on en a voulu à Dieu. Seigneur, quand même, tu ne m'as pas protégé. Seigneur, si, Seigneur, ça. Donc, on en a voulu à Dieu. Mais Dieu, il ne peut rien. Quand vous savez, quand vous comprenez, moi, les principes d'élèves, j'ai vu des choses, parce que par manque de couverture, des choses qui nous arrivent. Mais Dieu n'a pas bougé, il était avec son parapluie, il voulait nous couvrir. Mais nous, on était là-bas. Et là-bas, on a pris des coups. Et après, on dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas protégé? Mais je te protège si tu es là. Je ne te protège pas si tu es là-bas. C'est des règles spirituelles, c'est des lois spirituelles. Alors reviens sous ma couverture. Je te bénis, je t'aime. Mais là-bas, là-bas, tu es exposé. Et alors en étant exposé là-bas, là, tu as pris des coups. Et puis là-bas, le diable, il te dit, ah, ah, t'as vu ton Dieu qui t'aime. Mais le diable, t'es sous son épaule. Donc il te tient. Toi, il faut que tu comprennes que c'est le problème, ça vient du diable et de tes choix. Et quand tu reviens sous la protection de Dieu, tu es libéré. Et là, alors quand je dis qu'il faut pardonner à Dieu, non, il faut demander pardon d'en avoir voulu à Dieu. Et là, ça débloque. Amen. Voilà, un dernier petit schéma. Je vais vite, voilà. Je voudrais que vous compreniez ça. Voilà, quelqu'un m'offense. Ok, il est coupable de son offense. Je suis offensé. Je suis dans cette situation. Je suis blessé par l'offense. D'accord. Et si je garde une rancune envers la personne, ou si je dis « je n'en veux pas », spirituellement, il y a un lien qui est là. Il ne se voit pas, mais toi, tu es lié à la personne. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur ». Il les libère, il ne veut surtout pas garder une amertume envers tous ces pécheurs qui le crucifient, envers tous ces religieux, envers tous ces Romains, tous ceux qui sont là. Il libère tout de suite, il ne veut pas de cette chaîne. Donc il amène au Seigneur, il pardonne. Pardonner, c'est libérer la personne. D'accord ? Je lui remets ça. C'est un acte de miséricorde. Ben il a fait ça. Je lui pardonne. Je souffre. Je suis blessé par l'offense. Mais je pardonne. Et c'est le démarrage du processus de guérison. Et c'est pour ça qu'à un moment, Jésus pose la question, et je vais finir, ça va être chaud, mais je vais y arriver. Combien de fois je dois-je pardonner ? Pierre, il pose la question à Jésus. Jésus, il dit, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois ? Et Jésus répond, non, pas 7 fois, 7 fois 70. 490. Et moi, pendant longtemps, je me disais, mais comment on peut être offensé 490 fois dans la même journée ? T'es dans la foule, là. Tout le monde te monte sur les pieds, là. Enfin, je veux dire. Et en fait, le Seigneur, il m'a donné une dernière image. Il m'a dit, quand j'étais jeune, non mais vous allez comprendre, quand j'étais jeune, j'étais avec mon grand-père en coupé du bois en Haute-Loire. Et il y avait une grosse scie égoïne, et à un moment donné, je coupais du bois avec le grand-père, j'étais content, j'étais fier, j'avais 14-15 ans, on était les bûcherons, et la scie égoïne, elle a ripé, oh pétard, vous voyez cette cicatrice là, ça a été profond. Alors grand-père, bon, je ne suis pas affolé, hein, paysan, tout ça, bon, allez, on descend, on va voir la grand-mère, et la grand-mère, elle a sorti la bouteille d'alcool, un demi-litre, hein, celle-là, elle est petite à côté. À l'époque, ça fonctionnait comme ça, hein, donc on allait acheter la bouteille de un demi-litre. Et elle dit, fiston, tu serres les dents. Donc, et elle a pris la bouteille. Ah ! J'ai fait un bond. Et puis, je suis couché, elle dit, on met pas de pansement, cette nuit, tu dors comme ça. Bon. Et puis le lendemain, elle a ressorti la bouteille. Ah ! Puis le deuxième, troisième jour, elle a sorti la bouteille. Ah ! Et puis au bout de la semaine, je faisais plus. Ah, ça allait mieux. Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, voilà. Ton doigt là, enfin pas à l'époque, il m'a parlé après, hein, quand j'ai enseigné. Non, à l'époque je savais pas pourquoi j'avais ça, maintenant je comprends mieux, mais bon. Donc le Seigneur après il me rappelle en voyant cette cicatrice, il me dit, rappelle-toi la grand-mère, si elle avait pas mis la première fois de la bouteille, ton doigt, tu prends la gangrène, tu restes 15 jours comme ça, on est obligé de couper le doigt. Tu perds ton doigt. Le pardon, si tu ne pardonnes pas, tu vas mourir. Tu vas mourir si tu ne pardonnes pas. Maintenant, tu as pardonné. C'est la bouteille d'alcool. Tu as pris le choix de pardonner. Mais ça te fait encore mal. Ça, c'est la blessure. Alors, les gens, ils comprennent pas, là. Ils disent, mais j'ai pardonné. Et on leur dit, t'as pas pardonné puisque tu es encore dans ta blessure. Tu sors pas de ton problème. Ouais, parce qu'il faut remettre encore un petit peu d'alcool. C'est pour ça que Jésus a dit 7 fois, 70 fois. Parce que l'ennemi, il revient souffler sur la blessure. Il vient remettre une couche. Alors, tu prends un peu d'alcool, tu remets, tu pardonnes. Tu te tiens dans le pardon. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu sentes plus. Il y a la cicatrice. Et la cicatrice, elle te dit quoi? Tu oublies pas? Moi, j'oublie pas. Quand je prends une scie égoïne, je fais attention. Parce que je sais que si je ne scie pas comme il faut, il peut y avoir des risques. Ça, c'est ton expérience. C'est pour ça qu'à Auschwitz, il est marqué pardonne, mais n'oublie pas. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme, on a vu le résultat du fruit. Et il faut garder, parce que le péché reste le péché. Hein? Voilà, donc, alors comment, simplement, peut-être pour terminer, alors, pour pardonner, c'est un acte d'obéissance, c'est pas un acte de justice. Il faut continuer à pardonner, c'est ce que je vous disais, jusqu'à la blessure soit guérie. Reconnaître et se repentir de l'amertume qu'on a pu avoir et laisser Dieu nous guérir. Parce qu'à la fin, ici, c'est seulement Dieu. Vous amenez à Dieu votre blessure et Dieu peut guérir. Et la culpabilité, c'est l'affaire du coupable avec Dieu. C'est pas votre affaire. D'accord? Hein? Voilà, donc je voudrais simplement peut-être qu'on termine par peut-être une prière. Je ne sais pas, parce que je pensais qu'il y a des personnes, je sentais tout à l'heure, par rapport à vos enfants, vous avez été blessés par vos enfants. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord avec certains de leurs choix. Mais prenez la décision de pardonner. Ne les jugez pas dans leurs choix, mais pardonnez-les. Ok ? Je sentais ça dans mon cœur, je vous le laisse, je vous le livre. Et bénissez-les. Pardonnez-les. Si vous êtes d'accord, on va faire cette prière, on va faire la deuxième. Je ne vais pas vous faire confesser votre péché, sauf si vraiment, mais après, on le fera en individu. Mais pardonnez, peut-être, si c'est pour ses enfants, mais peut-être d'autres personnes qui vous ont blessé. Allez, est-ce qu'on peut dire ensemble? Je choisis de pardonner ceux qui m'ont offensé ou blessé, et ceux conformément à ta parole. Je libère chaque personne au travers de mon pardon. Et vous donnez, maintenant, vous nommez les personnes à voix basse. Mes enfants, mettez leur prénom. Pardonnez. Pardonnez. Laissez. C'est la chaîne qui tombe. La chaîne spirituelle qui tombe. C'est le début d'une guérison qui commence. Et peut-être que vous allez rentrer chez vous et ça va encore vous faire mal. Eh bien, quand l'ennemi va vous rappeler la situation, non, j'ai pardonné et je pardonne. Et vous allez voir que la guérison va s'installer dans votre cœur. Vous allez voir que vous allez évoluer par rapport à la situation. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu. Et vous savez, dans le service de Dieu, eh bien, vous en avez des trahisons. La sœur disait ce matin, Joseph a été trahi. Oui. Oui, il a été trahi, Joseph. Ça faisait partie de son appel. Oui aussi. Il a amené la nourriture à un peuple qui mourait, dans la famine. Mais il a exercé le pardon. Il a même pleuré quand ses frères sont venus. Pourquoi? Parce que l'offense était là, mais Dieu l'a utilisé. Seigneur, moi je te prie vraiment. Tu libères, Seigneur, cet esprit de miséricorde dans nos vies, dans nos situations de famille, dans nos situations d'église. Seigneur, libère ce matin. Libère, Seigneur. Alors qu'on ferme les yeux, si vous êtes là, si vous avez un souci, si vous avez... Pardonner à une personne simplement, alors que tout le monde ferme les yeux, levez la main, je m'en prie pour vous, que Dieu vous donne la capacité de prier. Oui, je t'ai vu, mon frère. Sois libéré maintenant, que tu aies la force, de la grâce de Dieu. Oui, sois libéré, ma sœur, de pardonner, que cette situation, que ces situations s'arrangent dans vos vies maintenant, au nom de Jésus. Oui, pardonnez, je vous vois, ma sœur. C'est un acte, c'est votre foi. Vous savez, la sœur, quand elle est venue à ce séminaire, et qu'elle a pris, parce que nous, dans un séminaire, on détaille plus, on mettait une corbeille, et on disait, durant la nuit, jusqu'à demain matin, les personnes que Dieu vous montre, que vous devez pardonner, marquez-les sur un petit bout de papier, et demain, dans la journée, venez le poser dans la corbeille. Il y avait un acte de foi, un acte d'engagement. Et chaque fois que les personnes faisaient ça, il y avait des choses qui se débloquaient dans leur situation, dans leur famille. Il y avait des choses. Donc là, quand vous levez la main, c'est un peu dire, je vais mettre la feuille dans la corbeille. Voilà. Je fais un dernier appel. S'il y a encore des personnes qui savent que maintenant le Seigneur leur demande de pardonner à quelqu'un de précis, c'est pas pour pardonner, pour faire bien. Non. Non, non, c'est une situation. Derrière, le Seigneur vous montre une situation. Je vous ai vu, ma sœur. Eh bien, croyez que Dieu... Les choses se débloquent dans votre vie, ma sœur. Vous allez voir, dans cette semaine, des choses vont changer dans votre entourage parce que le Seigneur est fidèle. il fait son œuvre. Je vous ai vu aussi. Je vous ai vu, mes frères. N'ayez pas peur. Vous savez, moi, je suis comme vous. Je vais dire, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je devais pardonner. Je pardonne. Et des fois, j'y arrive pas. Des fois, je dis, Seigneur, c'est trop fort pour moi. C'est pas le temps. Il va me falloir du temps. Il va falloir que je digère, là. Et c'est normal. Suivant la profondeur de l'offense. C'est normal. Donc, vous inquiétez pas. Allez, un dernier appel. Et puis, je prie pour vous. Voilà. Que tous ceux qui avaient besoin d'un pardon lèvent la main. Voilà. Je vous vois. Seigneur, merci, parce que tu, voilà, Seigneur, merci. Seigneur, je te demande maintenant que ton esprit vienne dans toutes les situations qui ont été mises à la lumière ce matin, que les situations soient déverrouillées maintenant dans les vies, que le processus de guérison, de réconciliation pour certains, se mette en place. Seigneur, nous coupons l'herbe à l'ennemi maintenant, ce matin. Nous lui empêchons d'utiliser cette situation spirituelle pour bloquer mes frères et mes sœurs dans leur destinée. Parce que tu as des choses beaucoup plus glorieuses pour ces personnes. Et pour l'instant, le diable les tenait coincés, ficelés dans cette situation. Mais ce matin, vous êtes déliés de cela, au nom de Jésus. N'ayez pas peur, laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-vous guérir. Et vous allez voir que votre vie, votre relation avec la personne, votre vision de la personne, votre compréhension de la personne va changer. Il y a plus de compassion qui vont venir à l'égard de la personne, pas à l'égard du péché. Le péché reste le péché, mais à l'égard de la blessure qu'on vous a occasionnée, ce que vous avez vécu, eh bien, elle va prendre du recul, cette blessure. Elle va être éloignée par le Seigneur, parce que Dieu est là. Merci Seigneur. Merci pour la puissance du sang de Jésus, qui est sur toutes ces situations qui ont été évoquées ce matin, qui ont été mises à la lumière. Et merci pour la puissance de ton esprit qui vient consoler et guérir. Au nom de Jésus. Amen.